Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Olivier Picard de l'Académie des inscriptions et belles-lettres évoque l'histoire après Hérodote, les historiens, l'historiographie, après la naissance de l'histoire scientifique dans la Grèce classique. Parlons des conceptions, des méthodes nouvelles de l'histoire. Olivier Picard, bonjour.
Bonjour.
Après les récits organisés d'Hérodote, on passe à l'explication des causes, des conséquences du récit. On passe à la synthèse, à la critique. Et là, je dis bien l'esprit critique, qui est indispensable à tout historien, et non pas l'esprit de critique. Et puis, on passe à la philosophie de l'histoire, à la prospective. Alors, Olivier Picard, quelles sont les grandes lignes de cette évolution et qui sont les successeurs d'Hérodote ?
Alors, il faut d'abord partir d'une constatation, c'est que le succès des enquêtes de l'histoire a été considérable, certainement. Et il a donné naissance à tout un genre littéraire et une forme de pensée, de recherche qui s'est poursuivie de nos jours encore, puisque de nombreuses personnes se réclament de l'histoire. Et en même temps, le genre a évidemment évolué. Alors, il y a eu une production littéraire considérable. Mais de cette production ne nous sont restées que très peu de choses. Un historien allemand a réuni ce qu'il a appelé les fragments des historiens grecs. Il y a plusieurs centaines d'historiens dont nous ne connaissons quelquefois que le nom et dont les œuvres sont à peu près perdues. Et donc nous dépendons à la fois de ce qui a été écrit, mais surtout de ce qui a été recopié. Et il y a trois moments qui sont décisifs à cet égard. Il y a le moment de la bibliothèque d'Alexandrie, où les bibliothécaires d'Alexandrie cherchent à réunir tout ce que les Grecs ont écrit. Il y a un deuxième moment qui est capital, c'est celui où l'on passe du rouleau de papyrus au livre. Et les ouvrages qui n'ont pas été recopiés sous forme de livres sont perdus. Et puis, il y a un troisième moment qui est tout aussi important, qui est celui des grands ateliers de copistes de Byzance. Et il y a des œuvres qui étaient connues des Byzantins au 9e, 10e siècle et que nous n'avons plus. Donc, il ne nous reste qu'un tri.
Dans la bibliothèque d'Alexandrie, il y avait environ 700 000 rouleaux.
Au moins. Il y a un moyen extrêmement simple de voir ce qui a été conservé. Vous prenez la bibliothèque de ce qu'on appelle la collection des universités de France ou la collection Budet, les livres grecs. Grosso modo, en simplifiant énormément, un volume de la Budet correspond à un rouleau de la bibliothèque d'Alexandrie et vous voyez ce qui reste. Alors, ce qui est très significatif aussi, c'est que dans le choix qui a été fait par les copistes, il y a eu des préférences, bien sûr. On s'est beaucoup intéressé à l'histoire de la Grèce classique. Hérodote, et puis nous verrons Thucydide et Xénophon. Et puis, on s'est intéressé aussi au moment où Rome intervient dans le monde grec, où Rome prend le contrôle du monde grec, et l'œuvre de Polybe, dont il ne nous reste qu'une petite partie, 6 livres complets sur 40, mais l'œuvre de Polybe a beaucoup intéressé, a été recopiée et a été utilisée. Les grands perdants, ce sont les auteurs qui ont raconté l'histoire de Philippe de Macédoine, l'histoire d'Alexandre, l'histoire des rois hellénistiques. Pour Philippe et Alexandre, nous avons des
recoupements possibles.
Des recoupements possibles. En particulier pour les rois du IIIe siècle, nous n'avons pas grand-chose. Et il faut bien voir aussi que l'histoire a évolué et qu'elle a évolué en se divisant en quelque sorte en deux branches. Il y a eu d'une part les gens qui, comme Hérodote, comme Thucydide, comme Polybe, ont raconté l'histoire du temps présent, l'histoire de ce qu'ils ont vécu ou l'histoire des événements dont ils pouvaient avoir des témoins, des événements proches. Et puis, à partir du IVe siècle, il y a eu des tentatives d'histoire universelle, ce qui posait toutes sortes de problèmes, ne serait-ce que de savoir comment couper le temps et également comment traiter toute une période dans laquelle on n'avait que des traditions orales et transformer ceci en récits écrits. Et tout n'était pas crédible. Comment traiter cela? Comment reconstituer une histoire? Dans une démarche scientifique qui n'est au fond pas très éloignée des historiens de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, qui eux aussi ont à reconstituer des temps qui n'existent plus. Et ces deux formes d'histoire divergent et prennent des formes tout à fait différentes. Et puis, on a également un phénomène qui est peut-être allié avec le déclin de la cité. Hérodote avait beaucoup insisté sur le fait que ce qui distinguait les Grecs et les barbares, c'était leur régime politique. Nous retrouverons ceci chez l'historien qui domine évidemment l'historiographie grecque, qui est Thucydide, vous avez deviné, et pour qui l'histoire de la cité est absolument capitale et l'homme n'existe qu'à travers son rôle de citoyen ou de soldat au service de la cité. Mais avec le déclin des grandes cités autonomes, on voit apparaître un intérêt pour l'histoire qui est de plus en plus psychologique ou moral. Et là, nous rencontrons une œuvre qui a eu un succès énorme dans l'Antiquité, qui a eu un succès énorme également à partir de la Renaissance, en français à travers la traduction d'Amyot, qui sont les vies parallèles de Plutarque, et qui sont les premiers romans historiques. Je ne voudrais pas donner au mot roman historique un sens péjoratif, car c'est de l'histoire aussi exacte que possible, mais avec un aspect de plaisir pour la lecture.
Et moral aussi.
Et moral, bien entendu.
Pour faire des liens entre des Grecs et des Romains.
Alors, ça,
on va un petit peu vite dans le déroulement de notre émission.
Alors ça, c'est un autre aspect sur lequel nous pourrons revenir, qui est celui de faire le parallèle entre les Romains et les Grecs. Il y aura d'ailleurs, je le signale, mais je n'y reviendrai pas, un autre parallèle qui sera fait au début du christianisme entre les grands hommes de la tradition grecque et les prophètes, les chefs religieux d'Israël. Parallèle entre ceux qui annoncent le Christ et les Grecs qui annoncent la civilisation. Donc, cette idée de parallèle, elle n'est pas limitée à Rome. Elle va se retrouver chez les historiens chrétiens.
On voit à quel point la Grèce est un pivot, puisqu'à chaque fois, c'était parallèle par rapport à la Grèce et à ce qui l'entoure à l'est ou à l'ouest.
Il y a deux civilisations où l'on plonge jusque vers 2000 avant notre ère. C'est la Chine, que je ne connais pas malheureusement, c'est mon grand regret. Et puis le monde grec qui est pour nous le grand passeur vers ce que les archéologues appellent maintenant le néolithique. Bien des aspects de la religion grecque sont nés quelques milliers d'années avant Jésus-Christ et nous les connaissons à travers les historiens grecs. De même, c'est par les Grecs que nous connaissons, c'est ce que nous avons vu avec Hérodote, que nous connaissons les grands royaumes.
Alors on va revenir à Thucydide.
Alors, évidemment, nous en sommes encore au moment où l'élément essentiel, le point essentiel, c'est la cité. Et Thucydide apparaît comme l'historien de la cité par excellence. Alors, à la différence d'Hérodote, c'est un historien qui agit dans sa cité. Il est né à Athènes avant 464, on ne sait pas exactement quelle est sa date de naissance.
Et il meurt autour de 400.
Alors, il meurt autour de 400. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'a pas terminé son œuvre et on ne sait pas exactement quand il meurt. On sait qu'il a connu la fin de la guerre du Péloponnèse. En 404, entre 404 et 395, il y a une marge d'incertitude. Et c'est un homme qui, là aussi, c'est une différence essentielle avec Hérodote, c'est un homme qui avait des ambitions politiques, tout à fait normales pour l'aristocrate qu'il était. C'était un homme qui avait reçu une excellente éducation, il avait suivi les leçons des sophistes. À cet égard, l'éducation de Thucydide n'est pas très différente de celle de Platon. Ce sont des gens qui ont été élevés dans le même milieu intellectuel. Et il s'est lancé dans une carrière politique. Je parle de Thucydide, il a été élu stratège, c'est-à-dire une des plus hautes fonctions de la cité, en 424, et malheureusement, il subit un échec militaire grave, et il est obligé de s'exiler, et donc il vivra le reste de la guerre du Péloponnèse en dehors d'Athènes, ce qui lui permettra d'ailleurs peut-être, même sûrement, d'avoir des relations avec les deux camps. Et c'est ce qui explique sans doute ce qui est sa grande question, Il nous dit s'être mis à la rédaction de son œuvre très tôt, dès le début. Alors, est-ce que c'était avant son exil? Est-ce que c'était après? Nous ne le savons pas. Mais il parle relativement peu de lui, mais on sent bien cette déchirure. Et en même temps, on sent bien qu'il est hanté par la grande question: pourquoi est-ce que Athènes a finalement perdu une guerre dont Périclès avait annoncé qu'elle sortirait victorieuse, à condition qu'elle suive certaines rigueurs. Et Périclès est vraiment l'homme admirable, celui qui est maître de lui, qui sait dominer le démos, Thucydide a, comme beaucoup d'aristocrates, un certain mépris pour le démos athénien, et Périclès sait s'en rendre maître. Et l'affirmation de Périclès, l'annonce de la victoire, elle est très longuement détaillée. Il y a 4 discours très importants dans le livre 1 et dans le livre 2 du Thucydide qui sont placés dans des bouches antithétiques, dans la bouche des Corinthiens, dans la bouche des Athéniens.
C'est ce qui est très intéressant.
C'est ce qui est très intéressant. Dans la bouche du roi de Sparte, dans la bouche de Périclès. Et tout le monde, même le roi de Sparte, dit ben, « faut pas nous lancer comme ça dans cette affaire parce que les Athéniens… » Alors, le roi de Sparte n'annonce pas la défaite de la cité, bien sûr, il ne pouvait pas, mais… Il la laisse quand même pressentir, et les Corinthiens, eux, insistent sur le fait que si on n'intervient pas maintenant, Athènes va devenir tellement puissante qu'elle va asservir l'ensemble du monde grec.
Oui, c'est-à-dire que Thucydide, il assiste à l'effondrement de ce qu'il considérait être le siècle d'or d'Athènes.
Ah, Thucydide assiste à cet effondrement. Le hasard fait qu'il n'a pas à le raconter. Enfin, il raconte quand même la catastrophe de Sicile. C'est la catastrophe de Sicile en 413 et le début de… Je ne peux pas dire le début de la fin parce qu'il y a encore pratiquement 10 années de guerre, mais enfin, c'est le moment où la situation se retourne.
C'est un tournant.
Il y a un tournant. Mais c'est vraiment la grande question. Et cette grande question, il va en chercher la réponse dans, et c'est ça évidemment ce qui nous intéresse, dans le comportement de la cité. Alors, il y a déjà eu une évolution assez sensible dans la méthode historique. Et on voit bien, Thucydide a lu Hérodote. Comme tout bon universitaire, il donne de bons coups de patte à son prédécesseur. Il ne le cite jamais, mais à certains moments, on voit bien qu'il le marque de très près. À cette époque-là, les livres n'ont pas de titre. Et c'est le début de l'œuvre qui annonce le sujet. Et Hérodote, comme Thucydide, commence en donnant leur nom, leur cité. Et Hérodote continue en disant « Voici le rapport de mon enquête, de mon historien », et ça va donner le mot « histoire ». Et Thucydide dit qu'il a composé, il a mis par écrit la guerre entre les Péloponnésiens et les Athéniens, et c'est de là qu'est venu notre titre « La guerre du Péloponnèse ». Et il y a toute une série de signes qui montrent que Thucydide veut faire mieux que Hérodote, quelquefois de façon un peu puérile, en disant que finalement la guerre du Péloponnèse est plus importante que les guerres médiques. Ça vaut ce que ça vaut, bien sûr. Dans d'autres cas, il y a des raisons très précises. Et il y a un point qui est très intéressant dans l'histoire de Thucydide. Il y a 2 accrochages de son histoire. D'une part, il accroche son histoire à Hérodote. Hérodote terminait son histoire en disant « Les guerres sont terminées à partir du moment où les Perses sont rentrés en Asie, les Grecs sont en Europe, chacun est chez soi et tout est réglé. » Et Thucydide fait un récit des 50 années qui se déroule entre la fin des guerres médiques, le départ des Perses, et le début de la guerre du Péloponnèse, qui sont les 50 années les plus glorieuses, les plus superbes d'Athènes. Ce sont les années du Parthénon, ce sont les années du théâtre grec, c'est vraiment l'apogée d'Athènes. Et il commence son récit en disant « Quand les Mèdes eurent quitté l'Europe, le rapprochement avec la fin d'Hérodote est trop précis pour que ça puisse être un hasard. » Et aussi, et on retrouvera ceci par la suite, il cherche à démontrer l'importance de la guerre du Péloponnèse en remontant à Minos et en remontant à la guerre de Troie et en disant que les moyens d'Athènes sont beaucoup plus importants que ceux qui étaient disponibles à ce moment-là. Alors, Il a à construire un cadre chronologique, ce que ne faisait pas avec cette rigueur Hérodote, qui suivait les règnes des rois lydiens et perses. Lui construit très strictement son récit par année, par saison, été, la saison des combats, et hiver.
Sur quoi s'appuie-t-il pour avoir des points de repère?
C'est une période qu'il a connue tout de même. Il avait des listes d'archontes, il avait des listes de magistrats, il a certainement, nous ne savons pas exactement comment il travaillait, on a cherché à reconstituer comment il avait pu écrire son histoire. Ça, malheureusement, on ne peut pas le faire, on ne peut faire que des conjectures. Mais il avait des éléments précis. La chronologie de Thucydide est extrêmement rigoureuse. Alors, bien sûr, le hasard peut jouer. La Tuquet, par exemple, la peste d'Athènes. Morceau très célèbre. On explique maintenant par la surpopulation dans la cité qui est ramenée derrière les remparts. Mais cette peste à Athènes, elle est due au hasard et c'est quelque chose qui modifie profondément le cours de la guerre. Thucydide lui-même est malade, il a failli en mourir. Périclès a été emporté par la peste et c'est quelque chose qui n'avait pas été prévu. Il y a un élément de hasard. Mais Thucydide ne se réfugie pas dans le hasard, dans la Tuquet. Pour lui, ce sont tout de même les comportements humains, la psychologie des gens, leur courage, leur valeur, qui sont les éléments décisifs de la guerre, ainsi que les institutions. Et on a d'une part des portraits très clairs, le successeur de Périclès, Nicias, qui est considéré comme un homme tout à fait honnête, comme vraiment un homme de grand mérite, qui avait toutes les qualités nécessaires pour exercer le commandement, mais qui n'a pas été tout à fait à la hauteur, et en particulier qui, au moment de l'envoi de l'expédition en Sicile, c'était la grande erreur d'Athènes en 415, Nicias n'ose pas s'opposer à Alcibiade comme il aurait dû, et cette démission, en quelque sorte, presque, on est dans une situation très paradoxale. Nicias ne veut pas de l'expédition, il en prend quand même le commandement. Alcibiade, lui, veut l'expédition, il en reçoit le commandement en second, en quelque sorte, et il y a une hostilité très forte entre les deux hommes. Et en plus de ça, Alcibiade est embringué dans toutes sortes de scandales religieux, et il est rappelé au cours de l'expédition à Athènes, ce qui fait qu'il ne peut même pas montrer les qualités qu'il aurait pu avoir. Et il y a un autre couple d'opposition qui est très clair, c'est celui des institutions. Alors, Thucydide est très clairement un aristocrate. Une de ses bêtes noires, c'est Cléon, un démagogue.
Populiste.
Populiste, tout à fait, qui est un va-t-en-guerre, qui pousse la poursuite et qui flatte le peuple. Il faut dire, c'est un point important parce que nous avons une vision probablement un peu faussée de la démocratie athénienne. Pour nous, la démocratie étant le régime le plus mauvais à l'exception de tous les autres, comme disait Churchill, donc le seul régime vraiment envisageable et compatible avec la liberté humaine, la démocratie athénienne en est évidemment tout auréolée. Ça n'était pas le cas du tout pour les anciens. Et si Platon ou d'autres étaient très réservés vis-à-vis de la démocratie athénienne, ça n'était pas parce que c'était de fieffés réactionnaires. C'est parce que la démocratie athénienne est une démocratie militaire. Les Athéniens tirent de grands profits comme rameurs, ils tirent de grands profits des succès de la flotte athénienne, de l'extension de la puissance athénienne tout autour de la mer Égée, dans ce qu'on appelle, un mot que je n'aime pas beaucoup parce que ça ne convient pas exactement, qui est l'Empire athénien, c'est plutôt la zone militaire dominée par Athènes. Et par conséquent, les Athéniens sont prêts à tous les sacrifices pour continuer la guerre parce qu'ils estiment que cette supériorité d'Athènes leur vaut une richesse, une prospérité qu'ils n'auraient pas autrement. Et Thucydide est assez réservé là-dessus. Il accepte la politique militaire de Périclès, mais dans ses limites. Et en revanche, le populisme de Cléon l'exaspère. Et pour Thucydide, il y a en quelque sorte trois groupes politiques. Il y a le démos, qui de toute façon n'exerce pas le commandement. Un homme du peuple ne sera pas élu stratège. Et puis, il y a, parmi les aristocrates, ceux qui sont pro-spartiates et qui considèrent quand même un peu comme des traîtres. Et puis, il y a le parti de Périclès ou de Nicias. Et alors, ce sont ces gens-là qui sont ceux qui commandent dans la cité. Et puis, d'un autre côté, Thucydide a bien conscience que Sparte a aussi des défauts considérables et des faiblesses considérables. Et il met bien en lumière les comportements différents d'une cité démocratique ou gros avantage,
la
tendance démocratique, où en principe, l'essentiel des décisions sont définies en public. Ce n'est pas le peuple qui prend les décisions, mais il a à les approuver et il faut donc les lui expliquer. Tandis que Sparte est un régime... Il y a deux rois. Il y a cinq éphores et puis il y a surtout une classe oligarchique qui devait représenter 5000 personnes à ce moment-là, dans une population qui était beaucoup plus nombreuse, avec au-dessus des ilotes et au-dessus d'autres groupes. Et ces gens-là sont très secrets. Et au fond, ils vont d'ailleurs jouer un rôle relativement limité. La victoire va être jouée à la marge, à Sparte. Et Thucydide est un diagnostic extrêmement précis et très juste sur le comportement différent d'Athènes et de Sparte. Et malheureusement, évidemment, il conduit son récit jusqu'en 411 et il s'arrête, il est mort.
Dans une prochaine émission, nous parlerons de Xénophon, Éphore, Diodore de Sicile, Polybe et Plutarque. Au revoir, monsieur.